VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Salut à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Édition du vendredi 30 décembre 2022. Il est 17h30 temps universel. Pour commencer, le sommaire. Les hommages affluent dans le monde après la mort de Pelé. Nous écouterons les réactions des fans de foot au Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal. Affaire des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois au Mali, le procès s'est achevé aujourd'hui. Le verdict reste attendu. Le président algérien critique les autorités de transition du Mali pour leur recours au groupe paramilitaire russe Wagner. Ici aux États-Unis, les déclarations d'impôts de l'ancien président Donald Trump ont été rendues publiques ce vendredi. Pour commencer, une page spéciale consacrée aux hommages rendus au roi Pelé. Le Brésil fait le deuil de son roi, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. La mort hier de la légende du football à Sao Paulo à l'âge de 82 ans a provoqué un afflux d'hommages du monde entier. Au Cameroun, l'on salue la mémoire d'un footballeur exceptionnel et au talent jusqu'ici inégalé. Écoutons ses réactions recueillies dans les rues de Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Jultap.
Dans l'histoire, c'est lui qui a révolutionné le football. C'est lui qui a donné l'envie aux jeunes footballeurs de pouvoir se lancer dans la carrière footballiste. Et pour nous, les footballeurs, Sanku, c'est Christ, le père d'une si grande star, une si grande icône du football.
Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la façon de jouer au football de roi Pelé?
Il était fin, c'était un fin buteur, un très bon dribbleur. Il arrivait les moments où, quand il jouait, l'on ne s'attendait pas qu'il va marquer, c'est en ce moment-là que lui marquait.
Chaque joueur vraiment a son temps, et il marque vraiment son époque. Le roi Pelé a marqué son époque, et je dirais qu'à son époque, n'est-ce pas, il a été meilleur.
Vous avez vu les images de Pelé, comment vous avez fait pour connaître Pelé, parce que vous êtes très jeune là?
Bon, très souvent à la CIA TV, on manquait souvent. Je pense qu'il y avait une émission appelée Field of Passion. Donc c'est pendant cette émission que j'avais pu, n'est-ce pas, découvrir le roi Pelé, qui était vraiment un renard de surface, qui ne manquait pas vraiment de marquer à chaque fois que l'occasion se présentait.
Et qu'est-ce qui vous a peut-être le plus fasciné? On disait qu'il était un fin technicien. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Il avait des dribbles, il avait inventé beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné sur ce que vous avez vu, vous le rappelez faire hein, dans les vidéos?
Bon, son sens du but. Son sens vraiment de pouvoir marquer à chaque fois que l'occasion se présente. Parce que jusque-là, je pense que selon les remarques ou encore selon ce que les analystes sportifs, n'est-ce pas, disent de lui, c'est celui qui a le plus marqué, n'est-ce pas, en phase offensive.
L'histoire ancienne du football a disparu de la planète Terre, donc ça fait vraiment mal. Quand je repassais ces vidéos dans mon plus tendre enfance, plutôt mon père m'a montré souvent de Pelé, qu'il a vu ces matchs, et j'ai apprécié. J'ai vu que c'est l'une des personnes qui ont amené le football à une autre dimension. Et entendre sa disparition, vraiment, c'est triste.
Les gens ont toujours dit que c'est lui le meilleur joueur de tous les temps. Vous pensiez?
Oui, je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il a remporté, je crois, 3 Coupes du Monde. Et ce n'est pas donné un joueur. Et là où il a joué, je crois, en Amérique, il était le meilleur joueur. Même comme il a pris la chance de jouer en Europe, mais s'il joue en Europe, il devait aussi faire comme les Cristiano et les Messi ont pu faire. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur.
Je pense également que le monde du football est attristé. Le roi Pelé, si j'ai bon souvenir, c'est une icône du football. Le monde footballistique est en peine. Vraiment, on ne peut que souhaiter le repos de son âme.
Au Burkina Faso aussi, la mort du roi Pelé est largement commentée. À Ouagadougou, si des gens l'ont vu jouer de loin, il y a un journaliste sportif qui a vu Pelé de près dans les années 60 et 70. À Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Dans les rues de Ouagadougou, la mort de la légende du football fait réagir. Mais ils sont nombreux à ne pas l'avoir connu comme joueur. Ils en ont juste entendu parler. Arthur Yameogo est un Ouagalais.
Dire que je l'ai connu, c'est trop dit. Je ne l'ai pas connu en tant que footballeur parce que on était encore très jeunes. Mais nous avons entendu parler de lui. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, en tout cas, son décès hier. Et j'espère que ce n'est pas un deuil des footballeurs, c'est un deuil en tout cas de tout le monde entier, vu ce qu'il a fait. pour le football du monde.
Alassane Kongo est un autre Ouagalais.
Dès la tendre enfance, nous avons entendu parler du roi Pelé. Lorsqu'on grandit un peu, jusqu'au collège, nous l'avons entendu. On l'a vu très rarement. Bon, il n'y avait pas de télé en notre temps quand il jouait. Hein. Ouagadougou était un gros village, mais sur les télés noirs blancs, on le voyait. On avait même cru que c'était un Africain ou un Burkinabé, si vous voulez, ou un Voltaïque en son temps, si vous voulez, parce qu'il était noir. On faisait des dessins sur lui et on faisait de ces petits trucs entre nous là, où est-ce qu'il fallait donner le vrai nom de toutes les stars. Alors, les grands boxeurs, les grands joueurs. Je retiens que son nom était Edson do Narcismanto Arantes.
Mais il y a cet homme, ce journaliste sportif aujourd'hui à la retraite, qui a vu en chair et en os le roi Pelé jouer.
On s'attendait un peu au pire, mais personne ne veut voir partir une légende.
Gabriel Barois, journaliste sportif à la retraite.
La disparition de Pelé, effectivement, provoque un choc. Ça, c'est inévitable. Et je fais partie un peu de ceux-là qui regrettent vivement le départ du roi Pelé. Dans les années 66-67, Pelé arrive en Côte d'Ivoire pour jouer un match de gala. Et à l'occasion donc, avec des yeux en fait d'adolescent, j'ai donc regardé Pelé, enfin comme tous ceux qui ont eu le privilège d'être au stade Félix Houphouët-Boigny, enfin ce jour-là. Et nous avons découvert un joueur immense dont la personnalité et la légende l'avait déjà dévancé, effectivement, en Iburni.
Malgré le contexte difficile dans lequel le Burkina vit, la crise sécuritaire et ces derniers jours la crise du carburant, la mort de Pelé ne laisse pas les Ouagalais indifférents, tant le footballeur a inspiré des générations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Au Sénégal, l'un des rares pays africains où le roi du football s'est rendu pour jouer, l'on garde le souvenir d'un joueur exceptionnel. Reportage à Dakar de Sedina Abagay.
En 1967, à Dakar, le roi Pelé dispute un match avec son club de Santos contre une sélection régionale de la capitale sénégalaise. La star brésilienne séduit par son talent et marque un but d'anthologie qui entretient depuis sa légende auprès des amateurs de football. Pour Dam Dong, c'est un géant du ballon rond qui s'en est allé. L'ancien sportif n'a pas eu la chance de regarder le match de Pelé au stade d'Embodiop de Dakar, mais il se rappelle des commentaires fanatiques de ceux qui y étaient et qui avaient été éblouis par son talent.
J'étais pas au stade, mais on m'a beaucoup raconté son histoire à Dakar, mais on m'a dit qu'il a fait un grand football, un grand match quoi. Oui, il a eu certainement, pendant les séquences du jeu, des défenseurs sénégalais qui ont eu le plaisir de marquer Pelé. Ça, c'est important dans l'histoire. Hein. Voilà, j'ai joué avec Pelé déjà, c'est une histoire. Mais j'ai taclé Pelé, c'est autre chose.
Babacar Ndiaye a, lui, découvert le génie du Brésilien via des documentaires. Il est ainsi tombé sous le charme de celui qui a révolutionné le football moderne, d'après lui.
On l'a vu qu'à travers les documentaires, la télé et ce qu'on nous a raconté de lui. Mais même ça, en regardant ces différents documentaires, on sent en fait le génie de Pelé. Le football avant, c'était bon, un peu du kick and rush en fait, de longs dégagements, tête et on s'en va. Mais Pelé a apporté cet aspect dribble, cet aspect samba. Il a apporté un peu ce côté artistique du football. On ne connaissait pas ce genre de football avant que Pelé n'arrive. Pelé a révolutionné le football grâce à ses dribbles.
Le plus grand footballeur de tous les temps et l'un des meilleurs sportifs de l'histoire. Voilà comment le journaliste sportif sénégalais Babacar Ndiaye Faye voit Pelé. Pour lui, au-delà du jeu, la légende s'en va après avoir beaucoup fait pour ce sport.
C'est sans doute le plus grand. Le plus grand, c'est-à-dire l'impact qu'il a eu. C'est clair qu'aucun des autres ne l'a jamais eu. Sur le plan social, sur le plan marketing, tout simplement sur tous les aspects qui ont donné au football une autre dimension. Je pense que les autres n'ont pas eu cet impact-là. Les autres générations ont dû quelque part bénéficier quelque peu du travail, de l'influence, de l'impact que Pelé a imprimé au football de sa génération.
Après avoir illuminé les pelouses par son talent et marqué le sport par ses performances hors normes, Pelé, qui a pratiquement tout gagné, a finalement perdu le dernier match de sa vie contre le cancer. Au Sénégal, les amateurs de football retiennent ses dribbles et son génie et voient en lui la parfaite incarnation du football total. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
L'Afrique saluant l'immense talent du défunt footballeur, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a estimé ce vendredi que le roi Pelé était une source d'inspiration unique pour le continent africain qui vivra à jamais dans le cœur et l'esprit des amoureux du football. Voilà pour la page spéciale consacrée au décès du roi Pelé. À présent, le reste de l'actualité. Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet s'est terminé ce vendredi. L'audience est terminée, la cour s'est retirée pour délibérer selon une source judiciaire. Pour avoir les dernières nouvelles de cette affaire, retrouvons sur place notre correspondant Mohamed Danioko. Salut Mohamed.
Salut Anto.
Voilà, merci d'être avec nous. Comment s'est déroulée la journée autour de cette affaire et puis qu'en est-il de la situation sur place actuellement?
La journée d'aujourd'hui n'a pas été différente de celle d'hier. Et les journalistes sont venus, ont attendu à l'extérieur comme hier et rien n'a filtré comme hier. Les avocats sont sortis comme hier et ils n'ont pas voulu accorder d'interview non plus. Donc, c'est dire que d'hier à aujourd'hui, tout ce que l'on sait, c'est que l'audience est tenue à la cour d'appel. On a pu voir les 46 militaires sortir des minibus et rentrer à la fin de l'audience. Mais officiellement, on n'a rien eu comme information. Mais officieusement, d'après ce qu'on a pu apprendre, c'est que ces 46 militaires-là auraient été condamnés à 20 ans. Et donc, il leur a demandé aussi à chacun de payer 2 millions de francs CFA. Et donc, ce qu'on a aussi appris de façon officieuse toujours, c'est que dès la condamnation, il y a la demande de grâce qui a été introduite, sauf que maintenant, il revient au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de prendre la disposition pour essayer de gracier les 46 militaires. Voilà tout ce que l'on fait après 48 heures d'audience à la cour d'appel de Bamako.
Merci beaucoup, Mohamed. On attend officiellement le verdict qui sera prononcé par le tribunal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune critique la décision de la junte malienne de s'offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner. Rosine Mounezero nous en dit plus.
L'argent que coûte cette présence de Wagner serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement au Sahel, a déclaré le président algérien dans un entretien avec le quotidien Le Figaro dans son édition de vendredi. Le terrorisme n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Nous pouvons le vaincre. Je suis beaucoup plus inquiet pour le fait que le Sahel s'enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire, a-t-il ajouté. Le règlement de la situation sur place passe évidemment par l'Algérie. Si on nous avait aidés dans l'application de l'accord d'Alger en 2015 pour la pacification de cette zone, on n'en serait pas là, a martelé le président Tebboune. La quasi-totalité des groupes armés maliens signataires de l'accord de paix dit d'Alger en 2015, dont l'ex-rébellion Touareg, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ont suspendu la semaine dernière leur participation, arguant de l'absence persistante de volonté politique de la junte Bamako de le mettre en œuvre.
En RDC, 10 personnes sont mortes ce vendredi à Kitongo, dans le sud Kivu, lorsque le véhicule qui les transportait s'est renversé en raison de sa surcharge et du mauvais état de la route, selon les autorités provinciales. Ce véhicule, qui transportait aussi des marchandises, quittait le marché de Kiziba pour Mwenga, dans une zone enclavée du sud Kivu. Les victimes sont 6 hommes et 4 femmes, d'après Hilaire Isombia, président de la société civile de Mwenga. Ici aux États-Unis, les déclarations d'impôts de l'ancien président Donald Trump ont été rendues publiques ce vendredi par une commission parlementaire de la Chambre des représentants à l'issue d'une longue bataille judiciaire. Une décision que dénonce l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Le Point avec Abdourahman Dia.
Les documents montrent que Donald Trump n'était pas régulièrement audité par l'administration fiscale IRS et qu'il payait peu d'impôts en déclarant d'importantes pertes pour ses entreprises. Cette commission, contrôlée par les démocrates, réclamait depuis 3 ans les documents transmis au fisc par Donald Trump entre 2015 et 2020, ce qu'il refusait. Donald Trump a vivement dénoncé cette décision dans un communiqué, assurant toutefois que ses déclarations ne font que montrer une fois de plus sa réussite. L'ancien président américain fait aussi l'objet de plusieurs enquêtes sur la gestion de ses archives, comme sur ses affaires financières à New York. Donald Trump s'est lancé dans une nouvelle course à la Maison-Blanche pour 2024.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Au Cameroun, une nouvelle loi des finances a été promulguée mardi par le président de la République en dépit des réserves de l'opposition et de la société civile. Elle dénonce une consécration de la vie chère en 2023. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Louis-Marie Cardeux est économiste et cadre du Social Democratic Front, un parti de l'opposition. Pour lui, le gouvernement camerounais n'entend pas remplir le panier de la ménagère au regard de la nouvelle loi des finances. Docteur Louis-Marie Cardeux, membre du chef de cabinet du Social Democratic Front.
Toute la logique était de produire un peu plus localement pour remplir le panier de la ménagère, c'est-à-dire créer de la richesse et donc augmenter le pouvoir d'achat au Cameroun. Les choses vont continuer à aller de mal en pire et que finalement les Camerounais risquent d'émettre des cris de détresse, des cris de famine qui peuvent engendrer d'autres choses comme des crises sociales.
L'économiste critique aussi l'option gouvernementale d'accroître une nouvelle fois la charge fiscale sur un petit nombre de contribuables.
Actuellement, l'assiette fiscale du Cameroun tourne autour de 30 000 contribuables. Le potentiel, c'est 98 000. Si les 98 000 payent 20 francs au lieu de payer 57 francs, on augmenterait l'assiette fiscale de façon substantielle.
À l'Assemblée nationale, certaines dispositions qui divisent dans la loi des finances ont fait l'objet de vifs débats. Par exemple, le prix du timbre fiscal qui passe de 1 000 à 1 500 francs CFA dès le 1er janvier 2023. Louis-Paul Moutazeux, ministre des Finances.
La conjoncture internationale, vous la connaissez. Le Covid qui a érodé nos capacités budgétaires, la guerre russo-ukrainienne qui crée les problèmes que nous connaissons. Moi, je me serais attendu que vous félicitiez le gouvernement pour ce qu'il fait, pour essayer autant que faire se peut de préserver le pouvoir d'achat des Camerounais.
Le gouvernement se défend également d'avoir évité aux Camerounais de payer jusqu'ici le juste prix de certains produits pétroliers grâce à une politique de subvention qui ne saurait perdurer. Louis-Paul Moutazeux, ministre des Finances.
Chaque mois, le gouvernement fait un effort qui oscille entre 50 et 70 milliards pour que nous continuions à nous alimenter en super, en jet à 1, en pétrole, etc., etc., au prix que nous connaissons.
Le déficit budgétaire global actuel du Cameroun est inférieur à 1%, mais les consommateurs s'attendent à des mesures plus concrètes face à une inflation galopante. Georges Ngono Edoua, président de la plateforme des associations de consommateurs pour la protection de l'économie et sociale.
Il faudrait que le gouvernement essaie de relever le niveau de vie, ne serait-ce qu'en essayant de revoir le SMIC à la hausse. Que le ministre, monsieur le ministre du Commerce, qu'il continue de travailler à ce que cette inflation généralisée puisse véritablement être maîtrisée.
La loi des finances 2023 du Cameroun a été adoptée à plus de 6300 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards de dollars. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Somalie, la sécheresse a ruiné plusieurs éleveurs et agriculteurs. À certains endroits, il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 2 ans. Ce pays a toujours connu des cycles de sécheresse, mais selon les observations des scientifiques, avec l'impact du changement climatique, elles sont désormais plus longues et plus fréquentes. À travers le pays, plus d'un million de personnes ont abandonné leur maison pour des camps insalubres et surpeuplés, comme ceux de Baïdoa dans le sud-ouest. Reportage, Patricia Huon.
Les petites huttes en forme de dôme s'étendent dans toutes les directions autour de la ville. Des abris de fortune bricolés avec des branchages, des morceaux de tissu et des bâches. Accroupi devant l'une d'elles, Abshira Hassan partage une bouillie de sorgho avec ses 6 enfants. Le seul repas de la journée.
Avec la sécheresse, nous avons tout perdu. Même les vêtements que portent mes enfants, ce sont les mêmes que ceux avec lesquels ils sont arrivés ici.
5 saisons des pluies manquées, c'est la pire sécheresse qu'ait connue la Somalie en 40 ans. Sur la modeste ferme, les récoltes ont flétri, le puits s'est asséché, les chèvres et les vaches sont mortes. Depuis, Barline, la dernière née, une fillette de 2 ans, est tombée malade.
Là où nous vivions, il n'y avait rien. Pas de lait en poudre, pas de médicaments. C'est pour cela que je voulais amener ma fille à l'hôpital.
Abshira et sa famille ont marché pendant plusieurs jours sous un soleil ardent pour trouver refuge à Baidoa. Tout autour de la ville, les vastes plaines arides sont sous le joug de la milice islamiste Al-Shabaab. Dans un centre de nutrition de la ville, une dizaine d'enfants et de bébés chétifs attendent d'être pesés et auscultés. Une infirmière note leur poids, une autre remet à leur mère des sachets de plum peanut, une pâte d'arachide riche en nutriments. Environ un tiers des enfants souffrent de malnutrition aiguë, dit le docteur Ali Nour Mohamed.
Nous recevons 50 à 60 cas de malnutrition aiguë par semaine. Certains souffrent de complications, alors nous les hospitalisons.
Beaucoup ici craignent que l'histoire se répète. Les deux dernières grandes famines en Somalie, en 1992 et en 2011, ont tué 500 000 de personnes à L2. Adam Abdelmoulak, coordinateur de l'action humanitaire au sein de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie.
Maintaining the current level of humanitarian support is contingent.
Notre capacité à maintenir ce niveau d'aide humanitaire va dépendre des ressources que nous aurons. En 2011, la majorité des décès ont eu lieu avant que la famine ne soit officiellement déclarée.
Ces dernières semaines, il est tombé quelques gouttes d'eau sur Baidoa où plus de la moitié des 800 000 habitants de la ville sont désormais des déplacés. Mais les prévisions suggèrent que la prochaine saison des pluies, qui doit commencer en mars, pourrait également être insuffisante. Pour Barline, affaiblie par la faim et la maladie, il était déjà trop tard. Abshira s'inquiète désormais pour son fils qu'elle tient dans les bras. Le garçon de 3 ans, fiévreux, le visage bouffi, est malade depuis plusieurs jours. Dans ses prières quotidiennes, elle ne demande plus grand-chose, juste que ses enfants survivent. De retour de Baidoa, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le président américain Joe Biden a félicité Benjamin Netanyahu qui est redevenu premier ministre en Israël. Le chef de l'exécutif américain a aussi réitéré la position de Washington en faveur d'une solution à 2 États pour une résolution du conflit israélo-palestinien. Comment ce nouveau gouvernement israélien pourrait s'y prendre concernant la question sécuritaire? Docteur Eli Carmon, chercheur à l'Institut international pour la lutte contre le terrorisme de l'Université Rashman en Israël, s'est entretenu avec Abdourahman Dia.
Personnellement, et pas seulement moi, beaucoup d'experts sont inquiets parce qu'il faut dire que c'est un gouvernement de Netanyahu, mais cette fois, ses alliés dans le gouvernement sont des deux partis d'extrême droite. Et donc l'agenda de ces deux partis qui ont fait pression sur le Premier ministre pour accepter leurs demandes, ce sont des demandes extrémistes et peuvent mettre en danger la sécurité interne d'un côté, mais aussi la sécurité extérieure du pays, surtout dans une période où il y a la menace iranienne très très proche et où il y a aussi en Syrie le fait qu'il y a une, si vous voulez, une alliance Russie-Iran et la guerre en Ukraine.
Quand vous parlez de crainte, ces partis qui sont un peu vers l'extrême droite, en tout cas assez, avec des positions très extrêmes, vous pensez notamment à la question de la Cisjordanie?
D'abord ça, parce que si une partie de leur agenda était mise en œuvre, à mon avis, il y aura beaucoup plus de terrorisme. Il y a peut-être une troisième intifada beaucoup plus violente que la deuxième, et donc un conflit qui mettra le pays en danger. Mais aussi, cela influe sur les relations internationales du pays. D'abord avec l'administration Biden aux États-Unis, mais aussi avec l'Europe et d'autres pays du monde.
Justement, le président Biden a félicité Benjamin Netanyahu, mais a réitéré la position de principe des États-Unis qui consiste à pousser pour une solution des 2 États. Vous pensez que les relations entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu pourraient arriver à un compromis sur la question palestinienne?
Je crois pas. Il y a déjà un compromis du fait qu'il n'y a pas d'avancement dans la négociation avec l'autorité palestinienne. Mais si le nouveau gouvernement prend des mesures, ou même s'il y a des provocations par certains éléments d'extrême droite, surtout à Jérusalem ou en Cisjordanie, ça peut provoquer une crise avec l'administration Biden. Et les messages que Netanyahu a reçus du côté américain le met en garde. Et je crois qu'il va tenir compte de cela parce qu'il comprend très bien que les relations avec les États-Unis sont extrêmement importantes et stratégiques.
C'était le docteur Eli Carmon, chercheur à l'Institut international pour la lutte contre le terrorisme de l'Université Reichmann en Israël.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'assouplissement des restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre de journalistes en mission en 2022. Cela, combiné à une multiplication des conflits meurtriers, a donné lieu à un pic de meurtres et d'emprisonnement de journalistes. Laurel Bowman dresse un bilan sur l'état de la liberté de la presse en 2022. Récit d'Ilidico.
Violence au Mexique, guerre en Ukraine, lois répressives et répression à l'encontre des médias, l'année 2022 a été difficile. Avec des journalistes emprisonnés en Iran pour avoir couvert les manifestations ou tués en Cisjordanie pour avoir couvert des affrontements, les arrestations et les violences meurtrières n'ont jamais été aussi nombreuses. Les organismes de surveillance des médias affirment que la liberté de la presse a reculé en 2022. Clayton Weymers est directeur exécutif de Reporters sans frontières.
Malheureusement, nous avons observé la plus forte augmentation du nombre de journalistes détenus, pris en otage et tués dans le monde.
Selon Reporters sans frontières, 533 journalistes ont été détenus cette année et 57 ont été tués. La Chine, le Myanmar, l'Iran sont les principaux pays qui emprisonnent des journalistes, tandis que le Mexique, l'Ukraine et Haïti ont été des pays particulièrement meurtriers à couvrir en 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a laissé d'énormes traces. Moscou a imposé des lois répressives visant à étouffer des reportages et des organes de presse emblématiques ont été contraints de fermer. En Ukraine, les journalistes travaillent pour assurer la sécurité du personnel et informer le public. Olga Rudenko est rédactrice en chef du journal Kyiv Independent.
Il n'est jamais facile de couvrir une guerre, quelle qu'elle soit, mais surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre qui se déroule dans votre pays et que vous n'êtes pas simplement un journaliste qui arrive sur les lieux et rentre ensuite chez lui en sécurité. Il n'y a pas de sécurité pour vous. Il n'y a pas de sécurité pour votre famille.
Mais les zones de guerre ne sont pas le seul danger pour les médias. Au Mexique, la violence et les assassinats ciblés de journalistes ont fait de cette année la plus meurtrière du pays. Les défenseurs des médias de ce pays affirment que les répercussions sont importantes. Paola Saucedo travaille pour Article 19, un groupe de défense des droits.
Ce qui nous inquiète le plus, c'est la violence meurtrière. Parce que lorsqu'un journaliste est tué, il se passe quelque chose qu'on appelle un double meurtre. Le meurtre de la personne et le fait de faire taire des informations et des enquêtes qui ne vont pas être racontées. Cela a un effet très fort, créant de la peur et de la censure.
La Chine reste l'un des principaux pays censurant les médias et son influence se fait sentir à Hong Kong. Les analystes pensent que le procès très médiatisé du fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, est utilisé pour envoyer un message. Keith Richberg est le président du Club des correspondants étrangers de Hong Kong.
Et donc, ces affaires de sécurité nationale mettent tout le monde au courant du fait que si cela peut arriver à quelqu'un d'aussi connu et riche que Jimmy Lai, cela peut arriver à n'importe qui.
Ailleurs, des gouvernements répressifs comme celui de l'Afghanistan cherchent à bloquer l'accès à des informations crédibles. Les talibans ont interdit les émissions radio de la VOA, mais les journalistes affirment qu'ils ne lâcheront rien. Shaista Sadat Lami fait partie du service afghan de la VOA.
Ils nous font confiance et ils veulent nous entendre. Et quoi qu'il arrive, ils nous trouveront.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À ce micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Je vous souhaite une bonne fin d'année à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.